Radio Galaxy 98.5.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci d'être avec nous, content de vous retrouver sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du sud de Toulouse. Nous allons parler avec Monsieur Serge Borins. Monsieur Serge Borins, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le président de la communauté de communes du bassin Hauterivain et en même temps le maire de Miremont, et c'est en tant que président que nous vous recevons aujourd'hui pour faire un petit peu le bilan de ce qui a été fait depuis maintenant de quelques années, depuis ce nouveau mandat en fait. Le bassin Hauterivain, c'est quoi comme territoire? Quelles sont ses spécificités? Quelle est un petit peu sa particularité?
D'abord, je peux me permettre, ça fait quand même 10 ans que je gère la communauté de communes. Le premier mandat a été un peu compliqué par rapport à ce que l'État nous a imposé, c'est-à-dire fusion de 2 intercos. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, on gère 19 communes, dont la plus grosse évidemment Hauterive, hein, qui est la commune centrale, mais avec des communes sur le nord comme la Gardelle, le Vernet, Venerque, qui commencent à prendre de l'importance. Aujourd'hui, on va atteindre bientôt les 35 000 habitants sur la communauté de communes. Hauterive, qui aujourd'hui est quand même aussi la capitale du PETR, donc des 3 communautés de communes.
La ville la plus importante avec plus de 10 000 habitants, c'est ça.
Ils ont passé les 10 000 habitants.
C'est elle qui, à votre avis, attire le plus d'activités sur votre territoire?
Au niveau de l'activité, effectivement, Hauterive commence à grossir. On se rend compte, quand on est sur la départementale 820, de l'ensemble des grands groupes qui s'installent, et notamment des commerçants, plus de commerce que de l'artisanat. L'artisanat est plutôt dans nos zones industrielles gérées par la communauté de communes. C'est-à-dire que nous, communauté de communes, on fait le développement économique. Et le développement économique de la ville d'Hauterive, c'est comme à toutes les entrées de ville, avec tous les grands commerces, plein de gros groupes qui s'installent. Donc ça veut dire qu'Hauterive prend beaucoup d'ampleur.
Mais c'est une commune donc dynamique sur le plan de la population et du centre-bourg.
Alors, le gros souci sur Hauterive, c'est la gestion des deux parties, qui aujourd'hui est beaucoup plus dynamique sur tout ce qui longe la 820. Par contre, toute l'autre partie d'Hauterive est plus compliquée à gérer. Aujourd'hui, les élus d'Hauterive, avec l'aide de la communauté de communes, nous faisons un gros effort avec la région et Bourg-Centre pour pouvoir justement animer toute la partie d'Hauterive qui aujourd'hui est un peu délaissée, quoi.
Alors vous, en tant que président de la communauté de communes, comment vous arrivez à gérer ce territoire, c'est-à-dire essayer de répartir équitablement un petit peu l'installation d'industrie, de commerce, de professionnels, pour que vous ayez un territoire qui soit équilibré?
Aujourd'hui, il ne faut pas se cacher que le centre est aujourd'hui entre Hauterive et Miremont sur le démarrage d'une zone qui, aujourd'hui, a pris de l'importance. On peut dire aussi que chaque commune n'est pas interdit d'accepter des commerçants et des artisans, donc chaque commune se développe à son rythme, mais nous, nous avons le devoir d'attirer sur ce territoire le nombre le plus possible d'artisans, et on essaiera dans un deuxième temps, puisque Hauterive, Miremont commence à être saturé, on a acheté 10 hectares au bord de la 820, au Vernet, et donc là, on voudrait faire une zone qui, elle, sera plus pour des entreprises novatrices et des entreprises modernes. Donc, on a 10 hectares encore à développer. C'est toujours assez compliqué, je le cache pas. D'abord parce que il faut venir jusque chez nous, hein, et que Toulouse Métropole absorbe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ce qu'on voulait faire, effectivement, c'est développer sur le Vernet parce que l'accès est vraiment facile. Aller jusqu'à Hauterive, il devait y avoir une 4 voies, elle n'a jamais été faite, hein, donc aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, mais il y a encore de grosses entreprises qui fonctionnent bien quand même.
Quels sont les atouts du bassin Hauterivain pour accueillir les entreprises?
Alors, les atouts, c'est qu'effectivement on a la ville-centre, donc ça c'est un atout. Aujourd'hui on trouve tout sur Hauterive, on n'a plus de raison de partir sur Toulouse, ou très peu. Et on a aussi, au niveau développement de chaque commune, des initiatives qui font que ça permet à nos habitants de rester sur notre territoire. Je prends l'exemple de Miremont, où j'ai créé une maison de santé que j'agrandis aujourd'hui du double parce que on a vraiment une grosse demande et que sur ce territoire, on absorbera, nous, sur notre village, tout ce que les petites communes ne peuvent pas absorber. Donc voilà. Donc c'est quand même un travail collectif pour pouvoir rester en dehors de la métropole, quoi.
Parce que les gens qui habitent ce territoire restent sur le territoire ou beaucoup vont travailler sur Toulouse ?
Alors, le gros souci aujourd'hui, c'est qu'on fait tout pour que on puisse rester sur le territoire, mais il faut pas se leurrer, on a quand même une population et on n'a pas des entreprises qui peuvent accueillir tout le monde. Donc aujourd'hui, il y a vraiment énormément de gens qui repartent sur Toulouse.
Si on regarde le profil des habitants de ce territoire, c'est des gens qui sont plutôt âgés ou la population rajeunit ?
Alors, la population rajeunit et on commence à avoir, justement, c'est pour ça qu'on n'a pas les entreprises qui conviennent et qu'on espère pouvoir les créer sur le Vernet. C'est qu'on accueille des populations aujourd'hui de techniciens, cadres, ingénieurs, puisqu'ils partent à la campagne et ils viennent aujourd'hui dans nos territoires, mais il faut l'aller-retour tous les jours. Donc oui, ça se rajeunit, on voit bien que, en ce qui concerne les écoles, on a beaucoup de monde dans nos écoles. Par contre, on a quand même aussi un vieillissement, mais qui est lié au fait que, nationalement, on vit de plus en plus vieux, donc forcément, dans nos communes, on a des gens aussi âgés dont il faut s'occuper.
D'où les maisons de santé, entre autres.
Oui.
Il y a aussi ce fameux lycée qui s'installe.
Alors, il y a déjà, on a quand même déjà trois collèges, donc le Vernet, Haute-Rive et Sainte-Gabelle. Aujourd'hui, il va y avoir le lycée. C'est vraiment quelque chose qui va attirer aussi beaucoup de monde, parce que s'installer sur un territoire où les gens ont le collège, le lycée, où il faut plus, comme c'est le cas aujourd'hui, trois quarts d'heure pour aller, trois quarts d'heure pour revenir, oui, ça va aujourd'hui attirer encore un grand nombre de personnes. Donc ça, c'est aussi la région qui gère ce lycée, et je pense que la région a fait un gros effort financier pour faire un lycée magnifique, quoi. Voilà.
C'est la région qui gère ces lycées, et il y a une participation qui est demandée aux communes ou aux communautés de communes ?
Aucune. Donc aujourd'hui, la région prend en charge totalement. Alors, sauf que la commune d'Haute-Rive, elle est obligée de faire un gymnase, ce qui est la règle, y compris au conseil départemental quand on fait un collège. Hein. La commune qui prend en charge le collège ou le lycée doit faire un gymnase.
On a parlé des commerces, on parle de l'école et on va parler des loisirs. Le parc aquatique, on en est où ?
Alors, ben justement, c'est quand même quelque chose qui est lié entre les deux. Sur ce territoire, avoir un lycée qui se construit et qui va ouvrir en septembre 2025, le centre aquatique a pris du retard qui est lié au fait que les services de l'État sont toujours de plus en plus exigeants et ne nous permettent pas d'avancer aussi vite qu'on le souhaiterait. Mais l'ouverture est prévue en 2026. Il nous a fallu, pour pouvoir, d'où le retard, lorsqu'il y a eu la crise et ces augmentations des matériaux, depuis la crise d'Ukraine, hein, il a fallu qu'on revoie le projet à la baisse. Hein, donc aujourd'hui, certaines choses ont été mises en option, c'est-à-dire qu'elles seront réglées par les futurs élus dans les années qui suivent, parce que là, c'était pas possible de le réaliser. Il a fallu que, en tant que président, j'insiste un peu pour tenir le budget, parce qu'il était hors de question qu'on dépasse le budget qu'on s'était fixé. Le calcul étant fait, on était capable de pouvoir construire ce centre aquatique pour 10 millions d'euros. Lorsqu'il y a eu la crise, on était monté à 12 millions 700. Et moi, j'ai expliqué que je ne souhaitais pas l'arrêter. Mais par contre, on a revu le projet à la baisse pour faire 2,7 millions d'économies. On y est arrivé, ce qui est bien. Il y aura un accueil de toutes les écoles. Ça, c'est quand même le point de départ. Je le rappelle, on a voulu créer ce centre aquatique pour que les enfants apprennent à nager. Et ensuite, au niveau divertissement, on a quand même gardé le toboggan pour les jeunes. On a gardé des jeux d'eau à l'extérieur pour les plus petits. Il y aura 3 bassins, un grand bassin, un bassin moyen et un tout petit. Donc, je pense que les gens auront du divertissement. Il y aura aussi tous les loisirs au niveau des personnes âgées qui pourront faire de l'aquagym. Enfin, il y aura tout ce qu'on trouve dans un centre aquatique aujourd'hui, en dehors de... Et ça, c'est peut-être aussi l'augmentation du gaz et de tout le reste qui nous a fait reculer. On devait faire une partie relaxation et tout ça. Alors, tout est prévu pour qu'elle puisse se faire, mais elle a été mise en stand-by puisque...
sauna, hammam, etc.
Voilà,
etc.
Tout ça, sauna, hammam. Aujourd'hui, toutes les arrivées, tout sera prévu pour pouvoir les construire, puisqu'ils étaient sur le plan initial. Hein. Mais aujourd'hui, ils ne verront pas le jour parce que c'était pas le moment, quoi, voilà.
C'est un centre qui serait ouvert toute l'année.
Oui.
Et qui pourrait accueillir combien de personnes environ?
Alors, on est sur 400 à peu près au niveau de l'accueil. Et ce sera ouvert, bien évidemment, toute l'année, y compris l'hiver, ce qui est quand même très intéressant pour le scolaire. Hein, et l'été, c'est une piscine qui a été prévue avec des grandes baies vitrées sur la partie longue de la piscine et qui s'ouvre entièrement. Donc pour l'été, il y aura une plage devant. On avait prévu à l'extérieur un grand toboggan, mais celui-là, par contre, on l'a supprimé. C'est pareil, il y aura toutes les arrivées, il y aura tout ce qu'il faut pour le construire, mais c'est reporté pour tenir le budget et être sérieux, parce que ce sont de gros investissements quand même, 10 millions d'euros. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de gaspiller l'argent public. Ce qui a été calculé, c'était... pour que la communauté de communes puisse l'assumer, c'était 10 millions d'euros à ne pas dépasser, et j'ai souhaité qu'on les dépasse.
Vous avez été aidé par la région, le département ou d'autres structures peut-être?
Alors, nous avons aussi de l'aide, effectivement, de la région, du département. Je signale d'ailleurs que le département a fait un très gros effort pour nous aider là-dessus. On a une aide des communes que j'ai demandé, c'est-à-dire que les communes ont aidé... à hauteur de quand même 1,6 million sur les 19 communes, ce qui est quand même pas rien. On avait des prévisions de l'aide de l'État. Alors, on y a une aide de l'État, j'espère, qui ne représente que 6%, ce qui m'a valu d'interpeller le préfet et la ministre qui est de chez nous, donc ministre des Territoires, pour leur dire que 6% pour un tel projet, c'était largement insuffisant. Et aujourd'hui, j'attends toujours des réponses que je n'ai pas. J'ai quand même un doute sur le fait qu'aujourd'hui, on ait plus d'aide de la part de l'État. Voilà, donc ça m'inquiète, hein, parce que d'un côté, ils disent qu'il faut apprendre à nager à tous nos enfants, et dès qu'on investit dans... au niveau des territoires, l'État est absent. Pour moi, 6%, il est absent, quoi. Enfin,
Et de travailler sur la transition énergétique et d'éviter les déplacements inutiles. On préfère que les gens aillent à Toulouse plutôt que de rester sur le territoire.
Alors, c'est aussi qu'un jour, on a très peur, nous, les maires, qu'on nous interdise d'accorder des piscines individuelles. Avec la sécheresse, avec tout ce qui se passe, le climat qui est modifié. Si tel était le cas, j'explique au préfet que notre centre aquatique serait là pour recevoir la jeunesse, les gens qui peuvent pas partir en vacances, en fait tous ces gens-là qui n'ont pas les moyens de pouvoir avoir une piscine individuelle, quoi. Donc oui, je continue de me battre. Alors, ce qui nous a pas aidé, je le dis clairement, c'est que tous les financements sont partis dans les Jeux Olympiques. Hein. Et que, donc, nous, derrière, on paie les pots cassés par rapport aux aides de l'État, et donc, voilà.
Votre travail de président, justement, c'est aussi de gérer les arbitrages. Sur un territoire, chaque commune, chaque partie de ce territoire a des projets. Comment vous arriverez à gérer tout ça?
Alors, les priorités sont, en ce qui nous concerne, d'abord sur les projets intercommunautaires. Ça, ce sont des décisions qui sont prises en commun. Par exemple, donc, on va créer une aire de grand passage pour les gens du voyage, avec mes collègues d'ailleurs du Volvestre et de Cœur de Garonne. Tous les investissements qu'on fait sont des investissements qui servent à l'ensemble des communes, aux 19 communes. L'intercommunalité n'intervient pas sur les projets communaux.
Ce qui veut donc dire qu'au niveau de votre intercommunalité, il n'y a pas de vision globale sur l'aménagement du territoire ou sur l'économie.
Si, parce qu'on vit ensemble. Donc forcément, on a quand même les 19 maires qui sont, plus les vice-présidents, qui sont au bureau. On fait un bureau tous les mois, on fait un conseil communautaire tous les mois. Et donc forcément, on travaille en parallèle. Et on est, par exemple, sur la ville de Haute-Rive, en ce qui concerne l'aménagement du centre-ville et tout ça. Moi, je suis impliqué, je participe à la ville de Haute-Rive. Les autres communes, bien entendu, on sait ce qui se passe, puisque on discute beaucoup. Et là, par exemple, on est sur un projet d'un centre de loisirs sur la partie nord. On a proposé à toutes les communes de la partie nord d'être candidates ou pas pour recevoir ce centre loisirs. La règle en général, c'est que lorsqu'une commune souhaite avoir l'équipement intercommunal, elle fournisse le terrain. Ça, c'est la règle qu'on s'est fixée il y a quelques années et qui est respectée systématiquement.
Les deux autres choses que vous avez abordées, c'est l'aire de grand passage. C'est quoi ça ?
Alors, l'aire de grand passage, c'est une aire qui est obligatoire depuis de longues années, mais qui n'a jamais été réalisée sur nos territoires et qui permet aux gens du voyage de s'arrêter lorsqu'ils passent d'un point à un autre, ce qui est le cas tout l'été, voire printemps-été même. Et donc aujourd'hui, comme il n'y a pas d'aire de grand passage, eh bien, ils envahissent nos communes, ils se mettent sur les terrains de sport, puisqu'il leur faut des endroits stabilisés. Donc ils font ça régulièrement, envahir les terrains de sport, et on ne peut rien faire contre ça, puisque ils s'installent, et puis c'est comme ça et pas autrement. Donc moi, voyant ces problèmes que je subis dans mon village tous les ans, j'ai pris en main le fait de créer cette aire de grand passage avec les deux autres présidents, des deux autres interco. Et puis, de toute façon, le préfet ne nous donnera pas le choix. Il faut vraiment qu'on y arrive. Il en manque une aussi sur le Muretin. Donc, c'est vrai qu'on est quand même dépourvu d'aire de grand passage. Et quand ils arrivent sur nos territoires, ils s'installent là où ils peuvent, quoi.
Donc, c'est un territoire qui est réservé aux gens du voyage. Et vous, la communauté de communes du bassin haut-rhin, vous faites l'organisation, mais c'est pris en charge par les autres communautés de communes également, du Volvestre et du Cœur de Garonne, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, les frais seront divisés en trois par rapport aux trois intercos. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même à la charge des intercommunalités. C'est surtout ça qu'il faut dire. C'est qu'aujourd'hui, on a ça en charge à prendre. L'État nous laisse seuls face à ce problème. Et donc... Même si on crée une aire de grand passage, il va falloir l'entretenir, payer l'électricité, payer l'eau, enfin tout ça, ce sont des frais supplémentaires qu'on a couramment, quoi. Voilà.
Une chose que j'entends souvent lorsque je discute avec des maires, c'est que, vous venez de le dire, l'État participe de moins en moins surtout à l'aide aux communes et aux intercos et laisse de plus en plus de missions en revanche.
Alors effectivement, depuis que je suis élu, ça fait plus de 30 ans, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'État nous donne de plus en plus de compétences, sauf que derrière, ils oublient de nous donner les moyens qui vont avec. Donc forcément, on se retrouve dans des collectivités qui ont de plus en plus de difficultés à gérer, qui n'ont pas forcément les moyens d'embaucher les gens avec les compétences nécessaires, et donc ça devient de plus en plus compliqué. Moi, je le dis aujourd'hui clairement, on va avoir des difficultés à trouver des élus. Parce que ça devient très, très compliqué, très difficile, et c'est même risqué. On voit bien l'agressivité des gens, on voit bien tout ce qui se passe autour de ça, et donc forcément, il y aura de plus en plus de problèmes pour créer les listes, y compris pour les municipales.
L'élu, le maire du village ou les adjoints sont les premières personnes qu'on rencontre en tant que citoyen, en tant qu'administré. C'est la seule personne qu'on a en face de nous. À partir du moment où l'État n'est plus présent sur les territoires, on s'adresse vers celui qu'on connaît et qui est en face de nous.
Alors, il y a les communes qui font leur travail, mais moi, au niveau de l'intercommunalité, j'ai créé donc France Service et un service emploi qui fonctionne beaucoup aussi, qui fait chaque année un forum de l'emploi où, sur la matinée, on arrive à caser quand même entre 100 et 150 personnes sur des emplois de proximité, donc chez nous. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Sur France Service, eh bien, c'est simple. On pallie aux carences de l'État. Alors, même s'ils viennent nous donner un coup de main, on les reçoit dans nos locaux. Mais là, c'est pareil. On a pris en charge les gens qui y travaillent, le lieu. Il m'a fallu agrandir, donc là, cette année, dans nos travaux, on a agrandi la communauté de communes de 8, 9 bureaux. Voilà, ce sont des frais supplémentaires qu'on souhaite faire aussi pour nos habitants. Mais l'État s'est déchargé totalement. On a vu la fermeture de la trésorerie d'Hauterive. Hein. Aujourd'hui, c'est muré. Enfin, ça ne s'arrange pas, quoi. Moi, mon inquiétude, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, on nous demande trop par rapport à ce qu'on est capable de faire.
Les maires en particulier ont de plus en plus de responsabilités en plus.
Des responsabilités, oui. Surtout financières, puisque les budgets que nous avons à gérer, il faut vraiment les gérer. Surtout quand on a une crise qui nous tombe dessus et qu'on n'avait pas prévu. Quand vous avez le gaz ou l'électricité qui se multiplie par 4 ou par 5, sur un budget ordinaire d'une mairie, en règle générale, ça pose des problèmes à la fin, quoi.
Un peu partout sur le territoire, aujourd'hui, la question, c'est la gestion des déchets. On en a parlé à Radio Galaxy pour Cœur de Garonne, on est en train d'en parler sur Volvès. Comment ça se passe sur le bassin Hauterivin?
C'est une question très, très difficile. Une question où je pense que là aussi, vouloir, au travers de ce qu'on met en place, éviter trop d'augmentation en triant mieux, en faisant de l'incitation au tri pour avoir moins d'ordures ménagères. Il faut savoir aujourd'hui quand même que évacuer les ordures ménagères, c'est aujourd'hui dans les fours de Toulouse, où avant de créer le budget, on ne sait toujours pas combien va être l'augmentation. Ils font ce qu'ils veulent, ils ont le monopole. Il y a cette augmentation-là qu'on ne domine pas, et ensuite, la taxe de l'État, la TGAP, qui, elle, peut prendre 20 à 25% sur un an, toujours pareil, sans qu'on soit prévenu. Donc, le travail des élus aujourd'hui, c'était d'essayer de trouver des méthodes pour mettre en place quelque chose qui coûterait moins cher. Par exemple, l'apport volontaire évite de faire des allers-retours avec des camions où on ramasse les ordures, où il y a trois agents derrière. Lorsqu'il y a de l'apport volontaire, il y a un agent qui arrive avec un camion grue, qui prend la grue, qui vide. Donc, on n'a plus qu'un agent. On fait pas l'aller-retour toutes les semaines, puisqu'on attend que ce soit plein. On a essayé, je dirais, de faire au mieux, mais je regrette une chose, c'est que il y a trop de gens qui ne veulent pas jouer le jeu. Aujourd'hui, on est sur des incivilités dont on pouvait se douter, mais pas à ce niveau, quoi. Aujourd'hui, tout le monde est un peu catastrophé de ce qui se passe, hein. Nous le reproche, bien entendu, mais pourtant, il faudra aller jusqu'au bout, parce qu'autrement, certaines ne pourront plus payer la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que c'est une taxe, elle est très injuste, hein, mais elle est nécessaire, puisque c'est la taxe qui paye les ordures. Hein. Il n'y a rien d'autre. On calcule tout au niveau des taux pour que la recette du territoire paye l'évacuation des déchets. Donc, il ne se passe rien d'autre. Et donc, forcément, chaque fois qu'il y a une augmentation, que ce soit de l'État, ou que ce soit au niveau du four de Toulouse, ben chaque fois, il faut que nous, de notre côté, on augmente la taxe. On n'a pas le choix.
Vous dites qu'il y a des incivilités, mais ce que le citoyen ressent aussi, c'est qu'il paye de plus en plus pour de moins en moins de services.
Oui, mais moi, j'ai participé à beaucoup de réunions publiques pour expliquer ce qu'on faisait. Je n'ai jamais caché que ce que nous faisions, ce n'était que pour atténuer. Atténuer, pourquoi? Parce que lorsque vous avez cette camembène qui passe pour ramasser les ordures ménagères et que la crise arrive avec un gasoil qui double ou presque, comment on fait? Comment on fait? Voilà, les questions sont là. Il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, on ne nous fait pas de cadeaux, on n'a pas de gasoil moins cher. Quand il a augmenté, ben on a payé le double. Hein. Donc, lorsque vous avez fait un budget et que vous avez des points comme ça qui doublent, ben oui, ça coûte cher et c'est compliqué à gérer. Donc, on a mis en place quelque chose qui était censé atténuer tout ça. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas compris, tout le monde nous en veut un peu. Moi, j'appelle au civisme et j'appelle au calme parce que la volonté des élus, ce n'est pas de pénaliser les gens. C'est simplement d'essayer d'organiser quelque chose qui, demain, d'abord, au niveau de l'environnement, sera quand même un peu mieux puisque le tri fait partie des choses qui, demain, peuvent arranger certaines situations. Et ensuite, parce que si on trie beaucoup, on a moins d'ordures ménagères. Je rappelle que les ordures ménagères, c'est 150 euros la tonne, et le tri n'arrive pas à 50 euros la tonne. Donc, il vaut mieux avoir du tri sélectif, qui nous coûte aussi, hein, faut le dire. Hein, on ne gagne pas d'argent sur le tri sélectif, hein, bien au contraire. Aujourd'hui, certaines boîtes nous font payer pour enlever ce qui est trié. On paye aussi, mais on paye nettement moins que sur les ordures ménagères. Donc, il est important que tout le monde puisse trier. Et par exemple, aujourd'hui, c'est vrai que dans nos territoires, un composteur peut éviter des tonnes, à la fin de l'année, des tonnes d'ordures ménagères lorsqu'on met les épluchures et tout ça. Pour nous, ça fait partie des choses importantes qu'on est en train de mettre en place.
Vraie dernière question cette fois-ci. Nous sommes sur les territoires ruraux. Comment s'est passée la crise des agriculteurs chez vous ?
Alors, les agriculteurs de notre territoire n'ont pas manifesté envers les élus. Ils ont manifesté envers l'État, bien entendu, hein, ils sont comme tous les autres. Hein. Nos agriculteurs sont en grande difficulté dans de nombreux domaines. Par contre, je pense qu'au niveau des élus, ils ont eu le soutien des communes, des intercommunalités, mais aussi du département et de la région, donc un soutien total. Mais aujourd'hui, ce soutien ne peut être que politique, entre guillemets, puisque les décisions se prennent quand même au niveau de l'État. Et si l'État ne fait rien, il est évident que ça va devenir de plus en plus compliqué pour eux aussi. On est dans la même situation quand on parlait des ordures ménagères tout à l'heure. Mais le processus est le même chez les agriculteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne leur paye pas au juste prix. Et donc, forcément, ils n'y arrivent plus, quoi. On les fait investir. Donc, on s'endette. Quand on investit, on s'endette, hein. Et par contre, on leur donne pas les moyens ni de rembourser derrière, ni d'avoir un salaire décent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les élus l'ont montré, il y a un soutien total avec nos agriculteurs.
Serge Morin, président de la communauté de communes du Bassin Torevin, merci d'être venu sur Radio Galaxy.
Merci à vous.
Et puis écoutez, bon courage pour tous ces projets et à la suite de votre mandat alors.
Merci à vous.
Vous êtes à Haute-Rive, écoutez Radio Galaxy sur le 98.5 FM.